Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h44, c'est le petit déjeuner de Damien Abad, député LR de l'Ain et président justement des Républicains à l'Assemblée nationale.
Bonjour Damien Abad.
Bonjour.
L'intervention d'Emmanuel Macron et les mesures, c'est à la hauteur de ce que vit la France ou pas?
Écoutez, compte tenu de la situation sanitaire, le couvre-feu était un mal nécessaire. Néanmoins, c'est surtout un aveu d'échec et d'impuissance par rapport à un gouvernement qui n'a pas su réaliser sa stratégie, tester, tracer, isoler. Sur les tests, c'est un échec parce qu'ils sont trop lents. Il y a encore 4-5 jours entre le moment où vous faites le test et le moment du résultat du test. Ouais. Sur tracer, c'est plus qu'un échec. C'est la Bérézina. Stop Covid n'a pas fonctionné. Et sur isoler, ça a été au bon vouloir des Français. Là aussi, il n'y a pas eu de contraintes et d'obligations. Donc c'est cet aveu d'impuissance qui aujourd'hui rend le choix impossible entre le couvre-feu, qui est en fait un confinement de nuit, ou le confinement total. Et donc, oui, le couvre-feu était nécessaire. Nous, en responsabilité, nous disons qu'il faut le faire, mais simplement, on le fait parce qu'on est au bout du rouleau. Et puis enfin, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que nos services de réanimation, parce qu'on a 30% de personnes Covid qui sont dans les services de réa, sont saturées. Ça prouve la vulnérabilité quand même de la France et des pays européens.
C'est une anticipation aussi sur ce qui pourrait venir s'il y avait des cas supplémentaires dans les semaines qui viennent. C'est ce que laisse entendre le chef de l'État.
Pas seulement, parce que le chef de l'État a rappelé que pour que finalement le modèle soit soutenable, il fallait qu'on tombe à 10-15% de personnes Covid en réanimation. Mais ce qui frappe aujourd'hui les Français, c'est quoi? C'est que quand on a 30%, une épidémie qui fait qu'il y a 30% de personnes en réanimation, le pays s'arrête. C'est ça qui ne va pas aujourd'hui. On a besoin de quoi? Pourquoi on ne fait pas des hôpitaux éphémères? On ne mobilise pas la réserve sanitaire? Pourquoi on ne forme pas davantage le personnel soignant? Pourquoi on ait davantage de réanimation, comme en Allemagne? C'est le cas en Allemagne, ils ont beaucoup plus que nous, et pourtant leurs dépenses de santé sont plus fortes, basses que les nôtres.
Et pourquoi alors, Damien Abad, selon vous, justement?
C'est
Olivier Véran qui ne met pas en pratique la politique de
écoutez,
santé qu'il
moi,
faut,
hier, c'est Jean Castex. J'ai vu un président de la République plutôt pédagogue, qui a dit les choses clairement, qui assume la décision du couvre-feu, qui est une décision responsable. Mais je vois dans le même temps un gouvernement dépassé, qui navigue à vue, un ministre de la Santé, effectivement, qui n'a pas tiré les leçons de la première vague, sur la formation du personnel soignant, sur l'augmentation également des lits de réanimation, sur la mobilisation de la réserve sanitaire, sur tous ces sujets très concrets, sur la réforme structurelle de la santé, l'organisation avec les agences régionales de santé. Et donc on a le sentiment un peu d'un hiatus entre un Premier ministre et un gouvernement qui aujourd'hui navigue à vue, et un président de la République qui essaye de prendre une décision difficile qui est celle du couvre-feu.
Mais alors, Olivier Véran, là, vous le critiquez, vous demandez quoi alors? Qu'il y ait un changement de gouvernement, enfin de ministre
non,
de la Santé,
vous savez,
une démission
Non, je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités.
Oui.
On
ne
peut pas demander simplement aux Français de prendre ses responsabilités.
Oui.
Il faut savoir qu'une décision comme celle-là, c'est un mal nécessaire, mais très difficile.
Oui.
Mettez-vous à la place des cafés, des restaurateurs, du monde de la culture, du monde du sport, enfin, en gros, personne ne peut se satisfaire d'une vie qui consiste à mettre au boulot.
Alors, c'est qui? C'est Jean Castex qui met pas bien les choses en musique?
C'est l'ensemble du gouvernement qui est responsable.
Ah oui, mais il y a un patron du gouvernement.
Oui,
vous savez,
le patron,
vous êtes le patron des Républicains.
Le patron, bien sûr, et le patron assume la responsabilité. Mais aujourd'hui, regardons les choses très clairement. C'est parce que la stratégie testée, tracée, isolée, qu'on est obligé, contraint, de prendre une décision de couvre-feu qui n'est rien d'autre qu'un confinement la nuit.
Oui, et un déconfinement qui a été raté ou pas alors?
Un déconfinement qui a été...
Vu de l'étranger, on se dit, mais les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait cet été?
Non, mais vous savez, c'est tellement facile. Les Français, soit on les infantilise, soit on les accuse.
Ouais.
Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut se mettre à la place, notamment de les nouvelles générations. C'est difficile. Quand on passe d'un confinement à un couvre-feu, quand vous ne pouvez pas faire des activités de loisirs, partager des moments de convivialité, moi, je ne suis pas dans la logique de les déresponsabiliser ou de les accuser. Simplement, ce que nous demandons, c'est de la clarté, de la cohérence et de la constance. Le problème, c'est quoi? Il y a eu trop d'allers-retours. Il y a eu trop d'incohérences dans ce qu'on a dit aux Français. Et là encore, aujourd'hui, quand on leur dit, vous pouvez partir en vacances, mais dans le même temps, il y a des zones de couvre-feu. Moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'on puisse encore partir en vacances dans des endroits où on met le couvre-feu, par exemple dans des métropoles. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas très clair et qui manque de cohérence.
Oui, Damien Abad, Emmanuel Macron a annoncé un délai de 4 semaines hein, pour l'instant, avant probablement de prolonger à 6 semaines. Mais ça passera sans doute par le Parlement. Est-ce que vous voterez la prolongation de ce couvre-feu?
Vous savez, à droite, nous avons pris et nous prendrons toujours nos responsabilités.
Oui.
Et que si les conditions sanitaires l'exigent, oui, nous voterons ce couvre-feu, cette prolongation de 4 à 6 semaines. D'ailleurs, on aurait pu avoir le débat dès aujourd'hui. à l'Assemblée nationale. Pourquoi attendre 4 semaines? On pourrait avoir le débat au Parlement.
Vous avez le sentiment que l'opposition, les partis politiques, l'Assemblée nationale ne sont pas mis dans la boucle là, des décisions?
Je dis simplement que si on veut rassembler la France, si on veut partager les décisions, alors oui, il faut associer davantage les oppositions. Mais au-delà de ça, la question, elle est surtout de dire nous prendrons nos responsabilités. Et si le couvre-feu est nécessaire, bien sûr qu'on le fera. Mais dans le même temps, et nous le faisons dans la commission d'enquête sur le Covid avec Éric Ciotti, nous voyons que ce « en même temps » sanitaire ne fonctionne plus. C'est ça la réalité. Nous voyons aussi les échecs, les contradictions dans la politique du gouvernement qui fait qu'on est obligé de prendre des décisions très difficiles et très contraignantes sur le plan des libertés individuelles.
Oui. Stop Covid, alors ça n'a pas marché, a dit Emmanuel Macron hier soir. Il n'a pas dit c'était un échec, il a dit ça n'a pas marché.
Le plus beau en même temps de l'histoire d'Emmanuel Macron. Parce que nous expliquer que ce n'est pas un échec mais que ça n'a pas fonctionné, franchement, c'est quand même difficile à comprendre. La vérité, c'est que ça n'a pas fonctionné, donc c'est un échec. Et donc, effectivement, le gouvernement s'est trompé. C'est une application que les Français n'ont pas comprise, qui n'ont pas adoptée, dans laquelle ils n'ont pas adhéré, même le Premier ministre d'ailleurs. Et donc, c'est un échec, alors que ça peut être peut-être un outil, comme d'autres, qui peut être efficace.
Et là, vous avez compris la nouvelle application qui devrait être mise en place, tous anti-Covid.
Honnêtement, on nous a expliqué quand même hier qu'on passait de tester, tracer, isoler, à tester, alerter, protéger. Qu'on passait de stop Covid à tous anti-Covid. Il faudra juste m'expliquer la différence.
Est-ce que vous êtes pour un dépistage massif? Certains spécialistes et scientifiques disent qu'il faudrait un dépistage massif, ce serait la véritable stratégie.
Mais nous le disons depuis le début.
Mais alors pourquoi
un dépistage automatique déjà dans les EHPAD, un dépistage massif, oui bien sûr. Pourquoi on n'avance pas, on avance si lentement sur les tests antigéniques, sur les tests salivaires, sur l'autotest, sur les tests par l'eau pour qu'on ait des résultats plus rapides? Aujourd'hui, le grand drame aujourd'hui et la grande conséquence en France, c'est cette lenteur des tests. Encore cette semaine, dans ma circonscription à Oyonnax, j'ai un ami qui s'est fait tester le lundi, qui a les résultats le vendredi. Ça ne va pas.
Est-ce que c'est un moindre mal aussi pour l'économie tout de même? Alors c'est vrai que les restaurants et une partie des loisirs vont souffrir, sont un peu sacrifiés, mais le reste du pays va pouvoir fonctionner.
Sur l'économie, on a besoin de 2 choses. On a besoin, au-delà des dispositifs de chômage partiel qui sont indispensables, d'une annulation des charges sociales et fiscales, notamment pour toutes les entreprises qui sont à l'arrêt et pour toutes celles et tous ceux qui font un chiffre d'affaires inférieur à 50%. La deuxième chose que nous demandons, que le Président de la République n'a pas pris hier, c'est la transformation du PGE, du prêt garanti par l'État, en fonds propres. C'est pas le remboursement. Les entreprises ne pourront pas rembourser ce prêt.
Oui, mais il a étalé en fait ce remboursement, il repousse
aussi,
un petit peu.
Sortons des demi-mesures, assumons nos responsabilités, il ne s'agit pas de repousser l'échéance, il s'agit simplement de dire aux entreprises, on va vous donner de l'air, de l'oxygène, en transformant ce PGE en fonds propres. Parce que c'est extrêmement dur pour les acteurs de la culture, pour le monde sportif, pour la restauration, pour l'hôtellerie, pour l'aéronautique, pour les transports.
Donc il faudrait effacer, vous dites que c'est de l'argent donné. Alors.
Il faut, mais de toute façon, à la fin des fins, c'est ce qui arrivera. Parce que si c'est pas ça, ça sera des milliers d'entreprises et de petites et moyennes entreprises qui ne tiendront pas. Ouais. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Oui. Est-ce qu'il y a des aides suffisantes aussi en direction des plus précaires et des plus jeunes? L'annonce par exemple de 150 euros et 100 euros par enfant.
Vous savez, je crois malheureusement que les chiffres de la pauvreté vont augmenter. Je crois qu'il faudra travailler ensemble à une prime d'accompagnement à la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, on se doit de souvenir à la consommation. Nous avons fait une proposition chez les Républicains. Nous pensions que, comme en Allemagne, on pouvait ici ou là baisser les taux de TVA. Pourquoi? Parce que la baisse du taux de la TVA relance la consommation. En Allemagne, ils ont baissé la TVA de 19 à 16%. Et ils ont baissé la TVA sur la restauration. En France, on ne veut pas toucher la TVA. Sauf que, à un moment donné, il faudra permettre à tout le monde de pouvoir consommer. Et le glissement vers la pauvreté est en train de devenir une réalité sociale extrêmement forte dans nos pays, sur laquelle nous devons agir.
Oui, alors cette baisse de la TVA, vous la redemandez en fait de nouveau là?
Et on l'a déjà demandé. La réalité,
pourquoi
c'est que
ça ne répond pas? Parce que c'est vrai qu'un tiers des restaurateurs pourraient mettre la clé sous la porte.
Pour deux raisons. Parce que le gouvernement nous dit, si je commence à toucher à la TVA, alors j'ai plus de recettes fiscales. Et la deuxième raison, c'est de nous dire, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Sauf que c'est pas que ça n'a pas fonctionné. C'est que la TVA, il faut l'assumer pour que ça soit une reconstitution des marges. Ça permet aux restaurateurs tout simplement de passer le mois. Et de passer le mois avec ses employés. C'est ça l'enjeu de la baisse de la TVA. Donc je pense que ça a une utilité, ça suffit pas en soi. Mais c'est un mal nécessaire quand vous perdez la moitié de votre chiffre d'affaires. Au moins qu'on évite de vous taxer sur ce que vous gagnez.
Oui. Question avec Cécile de Ménibus.
Emmanuel Macron a dit hier que le virus allait nous emmener jusqu'à l'été, cet été. Est-ce que ça veut dire qu'il faut repousser les élections régionales?
moi, en tout cas, il faut que le débat soit sur la table et rapidement. Mmh. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas envie que ça soit le feuilleton de l'hiver. Mmh. Franchement, avec la crise sanitaire, avec la situation économique de notre pays, ça serait malvenu que tout le feuilleton de l'hiver, pour les responsables politiques, ça soit la question du maintien ou pas de l'élection. On voit aujourd'hui que la situation sanitaire se tend. On voit qu'il y a de vraies interrogations. Moi, je demande à ce que ce débat, il soit tranché avant la fin de l'année et qu'une décision soit prise avant la fin de l'année pour pas qu'on nous balade.
Mais vous, vous pensez quoi ? C'est quoi votre préconisation ? Moi, je pense,
bah écoutez, si à un moment donné, on a une situation sanitaire de couvre-feu dans laquelle il est difficile pour les gens de se déplacer si on freine tout, honnêtement, je pense que la question du maintien des élections se posera à ce moment-là. Mmh. Voilà. Mais prenons cette décision ensemble, sans arrière-pensée de politique politicienne, et pas trop tard non plus pour éviter un feuilleton qui serait désastreux dans l'opinion publique.
Oui, est-ce que vous réclamez un grand débat à l'Assemblée nationale ? Parce que là, vous dites tout à l'heure, on n'a pas été consulté, là, sur les élections régionales, est-ce qu'il faut les reporter ? Est-ce qu'il y a besoin d'un grand débat à l'Assemblée nationale ?
Oui, il faut un débat à l'Assemblée nationale sur globalement les mesures qui sont prises sur le plan sanitaire et économique. Actuellement, on est dans le débat budgétaire, mais on pourrait très bien organiser un débat pour dire, voilà, quelles sont nos propositions ?
Oui.
Quelles sont nos préconisations pour sortir de cette crise sanitaire difficile, en responsabilité de cette situation économique ? Nous avons, je vous ai fait ce matin un certain nombre de propositions. Chez les Républicains, nous en avons, nous en faisons régulièrement au gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du Parlement. Le Parlement, c'est un lieu de débat.
Mais vous n'êtes plus entendu au Parlement ?
Oh, vous savez, depuis le début du quinquennat, malheureusement, on n'a pas été suffisamment entendu. Mais ça, à la limite, c'est le jeu démocratique.
Mais ça devient une urgence ou pas,
surtout,
alors, justement ?
Mais vous savez, ce n'est pas simplement que la droite soit entendue. Oui. C'est que les Français soient entendus.
Oui, oui. Un mot aussi sur ce qui a été décidé en fait hier soir. Pour certains, c'est perçu comme une restriction des libertés individuelles. Quel est votre regard là-dessus ?
Bien
notamment
sûr.
Pour la jeunesse, Emmanuel Macron a eu un mot d'ailleurs pour les jeunes. Quoi. Dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. Quoi.
C'est vrai. Mais bien sûr que c'est une restriction des libertés individuelles. Donc ça nous exige quoi ? Ça exige que cette mesure soit efficace. Parce que si vous restreignez les libertés des gens et que dans le même temps cette mesure est inefficace, alors là, ça sera une colère des Français. Donc, si on restreint les libertés individuelles, il faut l'efficacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire du contrôle, de la sanction. Et que sur le contrôle et la sanction, partout, sur tous les territoires de la République, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sentiment d'injustice ou sentiment de non-respect des règles qui sont
imposées. Comment vous avez pris la conclusion d'Emmanuel Macron, qui a terminé par cette petite phrase « Nous y arriverons ».
Vous savez, il faut gagner.
Il l'a répété.
Oui, mais on ne peut que partager cette volonté de combattre et de battre le virus à la fin des fins. Simplement, on n'y arrivera pas n'importe comment, dans n'importe quelles conditions. Pour y arriver, il faut de la constance, de l'humilité, de la cohérence et de la clarté. Et ça a beaucoup manqué au gouvernement ces dernières semaines.
Oui, et vous craignez aussi des tensions ? Là, dans le pays, on le voit déjà, en fait.
Alors, vous savez, quand on voit ce qui s'est passé
avec les forces de l'ordre,
quand on voit ce qui s'est passé à Champigny, d'ailleurs, il n'y a pas eu un mot sur les policiers. On peut s'interroger aussi sur la capacité de notre pays à maintenir et à préserver le couvre-feu partout, dans tous les territoires de la République. Oui, bien entendu que on est inquiet, bien entendu qu'on sent qu'il y a une nervosité sociale qui est là, qui est présente. Mais vous savez, nous ne sommes pas Le Pen ni Mélenchon. Nous assumons nos responsabilités, nous ne sommes pas là pour agiter, pour brasser, nous sommes là pour que notre pays, la France, s'en sorte et que les Français retrouvent la liberté, donc nous ferons preuve d'esprit de responsabilité.
Merci Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de Sud Radio.
Et à suivre le journal de 8h.
Oui, avec puis le professeur Toussaint qui sera aussi avec nous tout à l'heure à 8h10. Hein. Il dit qu'on est gouverné par la peur. Écoutez, on va le sonder juste après l'intervention d'Emmanuel Macron, donc hier soir.
À tout de suite.